À Lyon, la défiscalisation du pourboire par carte bancaire. Les restaurateurs qui ont du mal à recruter aujourd'hui vont-ils s'en contenter? Le détail dès le début de ce journal. Ce n'est pas le jour à tomber malade. SOS Médecins ne répond plus à partir de 8h. Les membres de la fédération sont appelés à la grève totale pendant une journée. On va vous expliquer pourquoi. Au sommaire aussi, la rentrée scolaire reportée à la dernière minute au Liban. Un influenceur star de Snapchat soupçonné d'escroquerie aux aides Covid. Et après Vanessa Springora, le nouveau témoignage en librairie d'une autre accusatrice de Madznef.
Et au micro de Léa Salamé, dans 20 minutes, c'est aujourd'hui la réalisatrice Rachel Lang et l'acteur Louis Garrel pour le film Mon Légionnaire.
France Inter.
C'est un petit coup de pouce, Alexis, après un an et demi de galère pour les restaurateurs.
Et surtout leurs serveurs qui ont vécu de longues périodes de chômage partiel. Certains hésitent d'ailleurs aujourd'hui à quitter le métier. Eh bien, Emmanuel Macron veut donc faciliter le pourboire, notamment par carte bancaire. Il sera donc totalement défiscalisé pour toute l'année 2022. C'est une info France Inter. Le président va l'annoncer ce matin au CIRA, le Salon International de la Restauration à Lyon. Simon Le Baron, l'objectif, c'est que le pourboire redevienne un vrai complément de salaire dans un secteur qui peine donc à recruter.
Puisque plus personne n'a de monnaie dans les poches, payons les pourboires par carte bleue. L'idée paraît simple. Le problème, c'est que les serveurs et les restaurateurs eux-mêmes sont souvent réticents, les transactions par carte étant automatiquement déclarées et donc imposées. Voilà pourquoi Emmanuel Macron va les défiscaliser pour l'année prochaine. Le président montre ainsi qu'il continue de soutenir un secteur en difficulté que l'État a beaucoup aidé, mais à qui il a aussi demandé un gros effort avec le pass sanitaire. Il montre qu'il se soucie du pouvoir d'achat des Français, dont il fera un axe essentiel de son bilan dans la perspective de 2022. Et puis cette annonce lui permet accessoirement de faire un clin d'œil à son allié François Bayrou, puisqu'elle reprend une proposition faite pas plus tard que jeudi dernier par les députés Modem. Quant à ceux qui y verraient une nouvelle mesure carnet de chèque, ceux qui l'accusent de faire campagne avec l'argent public, Emmanuel Macron a déjà trouvé l'argument à leur opposer. Cette défiscalisation ne fera rien perdre à l'État, ou presque rien. On l'a dit, les pourboires en liquide échappent de toute façon quasi systématiquement au fisc.
Information France Inter signée Simon Le Baron. Et après les restaurateurs ce matin, Emmanuel Macron reste à Lyon cet après-midi pour installer officiellement le centre de formation de l'Organisation Mondiale de la Santé, un site doté des dernières technologies, de l'intelligence artificielle à la réalité virtuelle et qui ambitionne de former des milliers de professionnels de santé du monde entier. Jean Castex, lui, veut former 1 400 000 chômeurs l'année prochaine. Le Premier ministre dévoile ce matin dans Les Échos son plan compétences pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre. Au total, 1,5 milliard d'euros supplémentaires pour la formation des chômeurs, mais aussi des salariés. Par ailleurs, le Premier ministre confirme la fin de la gratuité des tests Covid, dits de confort, à partir du 15 octobre. Ils resteront remboursés pour raisons médicales, mais les personnes vaccinées n'auront pas besoin de prescription. Pendant cette pandémie, eux ont été très sollicités. Les professionnels de SOS Médecins sont en grève aujourd'hui. À partir de 8h, leur fédération les appelle à cesser toutes leurs activités pendant 24 heures, du standard aux interventions, notamment pour demander une revalorisation du tarif des visites à domicile. Jean-Christophe Masseron est le patron de SOS Médecins.
La colère des 1300 médecins SOS, elle est ancienne. Ça fait longtemps qu'on alerte sur la possible disparition de la visite si elle n'est pas revalorisée. Actuellement, en journée, une visite à domicile, c'est 35 euros. C'est assez complexe, une visite à domicile, ça prend 3/4 d'heure, 1 heure facilement. Pendant ce temps-là, au cabinet, vous pouvez voir 3 ou 4 patients. Il y a une différence trop importante entre le travail au cabinet médical et le travail en visite à domicile, qui du coup n'est pas du tout tenable dans la durée pour les médecins généralistes, quels qu'ils soient d'ailleurs. On veut pouvoir continuer à se déplacer auprès des personnes les plus vulnérables. Ce serait vraiment dommageable pour la population. Et en plus, avec des coûts d'une répercussion économique importante, parce que la visite, finalement, est un outil peu coûteux. Alors, on regarde ce que coûte un transport ambulance et puis un passage aux urgences lorsque la situation l'exige. On a proposé de porter la consultation, la visite d'urgence à 57,60 €. On veut absolument pouvoir continuer à se déplacer au chevet du malade pour essayer de le prendre en charge à la maison plutôt que de l'hospitaliser.
Jean-Christophe Masseron, le président de SOS Médecins, avant cette grève, donc, d'une d'une journée qui commence à 8 heures. En Allemagne, une coalition avant Noël. C'est la date limite que se sont fixés les sociaux-démocrates du SPD, comme les conservateurs de la CDU, car les deux camps disent pouvoir former un gouvernement ce matin après les élections législatives. Selon les premiers résultats officiels, le SPD l'emporte d'une courte tête avec 25,7% des voix, 24% pour la CDU. De longues tractations vont donc commencer dès ce matin au sein de chaque direction de parti. Nous serons à Berlin dans le journal de 8 heures. Le Liban, lui, continue de s'enfoncer dans la crise et les enfants en pâtissent directement. Le gouvernement vient de reporter à la dernière minute la rentrée scolaire prévue ce matin. La décision est tombée hier soir, report pour 15 jours au moins, en raison notamment de la pénurie d'essence et de l'effondrement du pouvoir d'achat. Ce retour en classe s'annonçait de toute façon très chaotique. Aurélien Colli, vous êtes à Beyrouth pour Inter.
Une rentrée scolaire tout simplement impossible. Voilà comment Diana résume la situation. Elle est professeure d'anglais dans un lycée technique de Beyrouth.
On n'a pas d'électricité, on n'a pas d'essence, les manuels scolaires, le cartable, les gens, comment ils peuvent payer, c'est triste.
Tristesse partagée par Mohamed, chauffeur de taxi, obligé de faire la queue pendant des heures pour trouver de l'essence, obligé de travailler 20 heures sur 24 pour payer le quotidien de ses enfants.
The price is going high.
Les prix n'arrêtent pas d'augmenter, la nourriture, les habits, l'école, moi je suis fatigué, c'est vraiment trop difficile, tranche ce père de famille qui rêve de quitter le Liban. C'est ce que fait Radi, 21 ans, croisé à l'aéroport de Beyrouth. La rentrée scolaire, ce sera en France pour lui, grâce à un visa étudiant.
Je suis stressé, je suis triste, mais en même temps, je suis heureux pour mon avenir. J'ai pas d'autre choix. Tous les jeunes veulent quitter le Liban.
Radi fait partie de la classe moyenne en voie de disparition au Liban. Diplôme, double nationalité ou réseau qui facilite l'émigration. Talal, lui, n'a rien de tout ça, mais il s'en va quand même. Même si je travaille, je ne peux plus nourrir ma famille ni payer l'école. C'est fini, il n'y a plus de vie au Liban. Je veux un avenir pour mes enfants, explique ce plombier de 50 ans. Il a vendu sa voiture, ses meubles et même son téléphone. Direction la Turquie, avec assez d'argent pour tenir quelques semaines. Beyrouth, Aurélien Colli, France Inter.
C'était l'un des quatre derniers États européens à l'interdire. La République de Saint-Marin légalise l'avortement. Le oui à l'IVG l'a très largement emporté hier. 77% des voix lors d'un référendum dans ce petit pays enclavé au centre de l'Italie et encore très marqué par la tradition catholique. En France, condamné à la prison à perpétuité en première instance, Sid Ahmed Glam est rejugé à partir d'aujourd'hui en appel à Paris. Cet étudiant algérien de 30 ans comparaît donc de nouveau pour le projet d'attentat avorté contre une église de Villejuif en avril 2015 et le meurtre d'Aurélie Châtelain. Pendant un mois, l'audience va se tenir en même temps donc que le procès du 13 novembre dans le même palais de justice. Lui s'affichait à longueur de journée sur Instagram et Snapchat, un influenceur prénommé PA7 sur les réseaux sociaux et soupçonné d'avoir participé à une vaste escroquerie au Z-Covid. Près de 6 millions d'euros du fonds de solidarité détournés au profit de sociétés qui n'y auraient pas eu droit normalement. Cet homme est mis en examen depuis quelques semaines pour escroquerie en bande organisée et blanchiment aggravé. Il a été placé en détention provisoire, Ariane Grissel.
Jusqu'à son arrestation à Dubaï au début de l'été, le jeune homme de 24 ans se met en scène sur Instagram et Snapchat au volant de belles voitures, aux montres de luxe au poignet, des photos et vidéos vues par plus de 60 000 abonnés. Et c'est aussi par ce biais qu'il est soupçonné d'avoir proposé à des entrepreneurs qui n'avaient pas forcément le droit aux aides du Fonds de solidarité de faire une demande en leur nom en les faisant passer pour des personnes exerçant une activité qui était-elle éligible à cette enveloppe, le tout contre une commission proportionnelle à la somme obtenue. C'est un contrôle chez l'un de ses bénéficiaires qui a déclenché toute l'affaire. Du côté de la défense de l'influenceur, on insiste sur le fait que le jeune homme ne s'est pas encore expliqué devant un juge d'instruction et que l'enquête va devoir déterminer les versements qui ont effectivement été obtenus par son intermédiaire de ceux qui ne peuvent pas lui être imputés. Autrement dit, il ne serait pas responsable de l'intégralité du détournement, les plus de 5 800 000 euros. Son activité sur les réseaux sociaux est évidemment à l'arrêt depuis son incarcération. Son compte Snapchat a tout de même été rebaptisé PA7 en prison.
Ariane Grissel, les poubelles risquent de s'accumuler dans les rues de Marseille. Les éboueurs sont appelés à la grève après la CGT dès vendredi. FO a déposé un préavis pour aujourd'hui. Les syndicats dénoncent l'augmentation prévue du temps de travail. Des négociations doivent s'ouvrir avec la métropole ex-Marseille-Provence.
Il est 7h39, un an et demi après Vanessa Springora. Une autre accusatrice de Matzneff prend la parole dans un livre.
Francesca G publie un récit au vitriol sur l'écrivain et le système même qui l'a protégée quand elle avait 15 ans et lui 37. Une relation dont elle est sortie détruite et qu'elle raconte donc dans ce livre. L'arme la plus meurtrière, c'est son titre. L'histoire d'une lente dépossession de soi et d'un harcèlement qui dure des décennies dans l'indifférence générale, Ilana Moriousseff.
Quand on a lu Vanessa Springora, on ne peut qu'être troublé par les ressemblances entre son récit et celui de Francesca G. C'est le même système de prédation qui est décrit. Choisir une adolescente fragile, l'isoler, la flatter, l'enserrer dans ses filets et autour, des adultes défaillants.
Mes parents savaient, ma mère était tout à fait opposée à cette liaison et mon père, lui, était très très favorable à cette liaison. Il s'entendait très bien avec Madznev et il était tout à fait d'accord pour que je sois la maîtresse de Madznev. Ils étaient complices en fait.
Madznev qui manœuvre pour qu'elle soit inscrite dans le lycée à côté de chez lui, qui l'espionne, lui interdit de voir ses amis, publie dans ses livres les lettres qu'elle lui a envoyées, la harcèle pendant des années quand elle décide de rompre.
J'ai quand même été très très gravement insultée et mon image a été exposée. Le grand plaisir de Madznev et de certains de ses proches était de publier, republier ma photo sous tel ou tel prétexte. Cette photo a été exposée dans des galeries ou des librairies. Il y a un moment, il faut lui répondre à ce type. Moi, j'avais besoin de me défendre et de riposter.
Pendant longtemps, la riposte a été impossible. Des avocats ont refusé de la défendre. Des éditeurs l'ont découragée. Une conspiration du silence contre laquelle une victime ne fait pas le poids.
L'arme la plus meurtrière de Francesca G, c'est en auto-édition, c'est en librairie demain. Et puis exceptionnellement, le logo de l'équipe n'est pas rouge ce matin, mais arc-en-ciel, un changement très rare en une du journal sportif. Pour célébrer, bien sûr, Julien Alaphilippe, sacré pour la deuxième fois d'affilée hier au championnat du monde de cyclisme.
Alexis Morel, merci. L'édito politique à suivre.